Bonsoir, notre voyage ce soir, pas obligatoirement confortable, mais tellement, tellement riche humainement. Un voyage que l'on peut d'ailleurs démarrer au bout de sa rue en allant à la rencontre de l'autre, avec un A majuscule. En partageant sa voiture, en partageant son salon, certains s'en font une spécialité. C'est le cas, vous les connaissez sûrement, de Moots et Nantes sur France 5. Eux, ils sont tout nus, ils sont pourtant très culottés et ça marche.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour. Enchanté.
Enchanté.
On est deux voyageurs. On passe ici et on a vu votre maison, on l'a trouvée très très belle. Et on se disait, on avait envie de rencontrer les gens qui étaient là.
Voilà, faut juste oser. Faut privilégier l'aventure humaine plutôt que le confort de l'hébergement. Faut rechercher l'expérience plutôt que la climatisation et la piscine. Et on va voir comment s'y prendre avec nos invités. Pierre Josse, bonsoir.
Bonsoir.
On vous retrouve sur France Inter tous les mardis cet été à 16h dans le temps d'un bivouac. Vous êtes l'un des piliers depuis 4 décennies du guide du routard, une centaine de pays visités, 5-6 voyages par an, et encore vous avez réduit, paraît ?
Oui, un petit peu, oui, parce que j'écris le tome 2 de mes mémoires.
Et un faible pour l'Irlande, où vous vous êtes rendu un peu plus de 40 fois.
Faible euphémisme.
Notre autre invité, vous le connaissez forcément, c'est un drôle de bonhomme habillé en rouge, il est absolument seul avec ses deux caméras fixées sur lui, il parcourt le monde pour France 5 avec ce double objectif, rencontrer les gens et, si c'est possible, aller dormir chez eux. 90 pays traversés en une vingtaine d'années, c'est Antoine de Maximi. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Alors déception, moi je vous imaginais au Vanuatu, en Bolivie, aux îles Féroé. En fait, vous êtes comme tout le monde au mois d'août, vous êtes à Biarritz. Alors ne me dites pas qu'au moins vous êtes à l'hôtel. Non.
Ah non, je ne suis pas à l'hôtel, je suis chez un copain.
Et nous recevons également en duplex depuis Nice Guy Raffour, qui est expert en e-tourisme. Vous réalisez des études sur nos habitudes de consommation en matière de loisirs et de voyages. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez tous trois les bienvenus. Alors comment voyager en mettant le rapport humain et la rencontre au-dessus de tout ? Partage de transport, d'hébergement, vous bourlinguez, vous accueillez. Racontez-nous vos expériences, vos conseils, vos questions. On vous attend au 01 45 24 7000. Soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
De plus en plus de Français déclarent avoir un besoin vital de partir. 55% des personnes interrogées, et c'est un record. Il y a quoi derrière ce besoin aujourd'hui, Guy Raffour ? C'est le repos, c'est la découverte, c'est la déconnexion ?
Oui, c'est tout ça en même temps. Alors déjà, il faut savoir que ce chiffre n'a jamais été aussi élevé. On fait cette étude depuis 16 ans. Et on a eu un record absolu à 55% pour cette année. Et ce que l'on voit, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, que ce soit une période de crise ou une période où les choses vont mieux, les gens ont augmenté ce besoin vital. C'est-à-dire que le voyage devient quelque chose de prioritaire, hein, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on a des charges contraintes, mais devient quelque chose de prioritaire parce qu'on a envie de changer. C'est la notion de changement, d'innovation, de nouveauté, ce que vous citiez également tout à l'heure, d'expérience, de se retrouver dans des lieux, avec des contacts aussi, des gens différents. Et les gens font des efforts très importants, hein, 70% des Français prévoient un budget pour partir, pour justement assouvir ce besoin vital, parce qu'ils veulent pas partir à crédit. Mais c'est devenu quelque chose d'indispensable, en tout cas pour ceux qui peuvent, hein, puisque beaucoup de Français peuvent pas partir encore.
Et chez vous, Antoine de Maximi et Pierre Josse, on aura compris qu'il était chevillé au corps depuis bien longtemps, hein, ce désir, ce besoin de partir. Comment vous le définissez, Pierre Josse ?
Moi, je suis un vagabond professionnel. C'est-à-dire que j'ai la chance d'être payé pour voyager. D'ailleurs, je voulais trouver un métier qui me permette de voyager, d'aller à la rencontre des autres cultures, des autres civilisations, et en même temps d'être payé. Donc c'est un peu réduit comme créneau, et j'ai choisi d'écrire des guides, et le guide du routard, bien sûr, depuis 40 ans.
Ce besoin, il vous taraude tous les jours, Antoine de Maximi, et depuis toujours ?
Pas tous les jours, non. Au contraire, moi, j'aime bien arrêter un petit moment, parce que comme ça, j'ai envie de repartir. Moi, de toute façon, ce que j'ai toujours aimé toute ma vie et que je continue à apprécier énormément, c'est le changement. Donc, un coup, je pars loin, parfois je pars pas loin, et ce que j'aime, c'est la rupture.
Et vous faites des découvertes, quel que soit l'endroit, c'est-à-dire que même tout près de chez vous, c'est un voyage.
Oui, alors moi, je suis quand même très souvent intéressé par les gens plus que par les endroits, mais des gens étonnant, il y en a absolument partout, de même que des gens désagréables, des gens hyper sympathiques, des gens inquiétants. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce que je fais, moi, cette série « J'irai dormir chez vous », en fait, l'endroit où je vais n'est pas si important que ça, parce que je vais de toute façon rencontrer des gens qui sortent de l'ordinaire.
Pierre Josse, vous voyagez toujours depuis 20 ans dans le 14e arrondissement. Et oui. Vous faites toujours des découvertes extraordinaires.
Alors, Antoine a tout à fait raison, il faut alterner. C'est-à-dire que au Routard, il y a les destinations étrangères et on a ouvert aussi les guides sur la France qui marchent très très bien. Et j'adore découvrir des départements, même des départements ce que j'appelle peu attrayants, soi-disant, vous voyez. Par exemple, j'ai suggéré il y a une vingtaine d'années de faire le Nord-Pas-de-Calais. Et là, il y a des collègues qui m'ont dit « Attends, le Nord-Pas-de-Calais, c'est... Non, tu rêves, enfin, c'est pas possible. » Je dis « Je suis sûr que c'est une région extraordinaire. » Et ça a été un coup de gueule, un coup de baffe dans la tronche. Ça a été une découverte.
Avec des histoires,
des rencontres extraordinaires, notamment la Flandre française, qui est d'une richesse absolument extraordinaire.
Je vous le confirme, j'y vis depuis 10 ans et je serai bien en peine d'en partir. On va rejoindre Éléonore, qui nous appelle non pas du Pas-de-Calais, mais de Paris. Bonsoir Éléonore. Oui.
Bonsoir.
Alors, votre témoignage de bourlingueuse.
Eh ben, pour dire juste que je voyage depuis que j'ai l'âge de 18 ans et j'en ai 46. Et je voyage volontairement sans guide, sans téléphone, sans Google Maps. Je me perds, je demande mon chemin, je fais de l'autostop et arrive ce qui arrive.
Et en général, il ne vous arrive que des belles choses.
Il ne m'est jamais arrivé rien de désagréable.
Que des bonnes surprises.
Et dans des endroits où on m'avait déconseillé de le faire, comme la Nouvelle-Calédonie, où on m'avait déconseillé de le faire, et j'ai fait le tour de la Calédonie en stop, sans aucun problème. J'ai été accueillie dans des familles de toutes les cultures, et à tous les endroits, même dans des endroits religieux fermés, on m'a accueillie, et voilà.
Donc votre conseil, il tient en un verbe, c'est oser.
C'est partir sans rien pour être à la disposition des gens et des choses, Et se laisser porter tout en faisant attention, un minimum de précautions, mais rien de voilà. Et aller vers les gens, demander de l'eau aux gens, demander son chemin, demander un conseil. Je peux faire quoi aujourd'hui? Et du coup, les gens sont très fiers de vous aider, de vous accompagner, de vous montrer leur monde, leur vie, et ils vous laissent jamais au bord de la route. Jamais. J'ai jamais attendu. J'attends plus le bus en ce moment à Paris.
Merci de ce beau témoignage, Éléonore.
Merci. Je voudrais juste dire juste un petit mot et pour partager son voyage. Un petit mot pour une asso, je dis juste son nom, l'enfant à l'hôpital. Colibri, les voyageurs solidaires de Colibri, l'enfant à l'hôpital.
Merci.
Les gens qui seront curieux iront voir.
Merci de ce message. Belle soirée, beau voyage à vous. Belle bourlingue à vous.
Merci beaucoup, au revoir.
Guy Raffour, dans vos études, vous vous rendez compte qu'effectivement les Français recherchent désormais ce qu'on appelle, ça fait un peu mot barbare, mais l'expérientiel.
L'expérientiel, oui, une expérience. Effectivement, on a vu monter ça en 16 ans de façon absolument incroyable. Ils veulent quelque chose de personnalisé. Par exemple, j'aime faire de la plongée ou je veux justement découvrir des gens ou apprendre quelque chose ou profiler, c'est-à-dire famille monoparentale, famille avec enfants, adolescents ou petits, ou segmenter, là, partir plutôt sur des destinations de type ville ou lac ou montagne. Donc, on voit de plus en plus des Français qui constituent un véritable cahier des charges. Alors, la personne qu'on vient d'avoir en ligne dit « je pars comme ça », mais là, on voit que les Français passent des heures à préparer leur séjour, vraiment des heures. Ils veulent pas se tromper, ils veulent réussir leurs vacances, donc ils passent beaucoup de temps, ils échangent beaucoup aussi en amont, par Internet, avec des amis, avec la famille, avec des collègues, ils prennent des conseils. Et ce que l'on a vu de très intéressant par rapport à ce que disait également Pierre, on se connaît bien, c'est le 80% des Français partent en France et 38% à l'étranger, 18 font les deux. C'est-à-dire que le dépaysement, effectivement, on peut le trouver tout aussi bien dans une région à côté, un département à côté, même parfois dans sa ville, et pas forcément loin. Ça, c'est quelque chose que les Français ont complètement assumé. Et la deuxième chose qu'on a vu monter très fortement, c'est que les gens demandent maintenant, quand ils sont sur place, alors ils préparent tout avant, mais une fois qu'ils sont sur place, maintenant, avec le smartphone et la tablette, ou un Wi-Fi sur le micro-ordinateur portable, ils vont changer ce qui va se passer en temps réel, si les enfants ont envie de faire quelque chose ou pas, si on a envie de se reposer, de faire du patrimoine, de l'œnotourisme, aller se distraire, et ils vont complètement adapter leur consommation touristique localement en temps réel. Et ça, c'est complètement nouveau.
Je voudrais qu'on revienne sur l'expérience et le témoignage d'Éléonore. Donc créer, provoquer l'expérience en voyage, c'est de ne pas la prévoir finalement. Antoine de Maximy, vous, quand vous arrivez dans un village à l'autre bout du monde, c'est une page blanche, c'est quand même assez vertigineux. Vous ne savez rien de ce qui va se passer.
Non, je ne sais rien, mais je trouve qu'elle a tout compris, Éléonore. Après, chacun voyage comme il a envie. Mais le fait d'oser ne pas prévoir change une chose qui est très importante, c'est qu'on n'est pas en attente de quelque chose de précis. C'est logique. Mais le fait d'être dans cet état d'esprit permet de voir des tas de choses qu'on n'aurait jamais vues autrement. Des petites choses, quelqu'un qui est derrière une porte, qui est au fond d'une cour, qui fait qu'on va rentrer dans la cour, et puis on va s'apercevoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui était caché, qui est très intéressant avec qui il va se passer des tas de choses. C'est le fait d'être disponible, de ne pas avoir prévu. Et je pense même que les gens qui voyagent et qui prévoient leurs vacances ou leur voyage, comme on en parlait à l'instant, ces gens-là devraient s'autoriser à prendre 3 jours sur leur séjour sans savoir ce qu'ils vont faire. Et moi, je leur conseille même une chose, c'est d'aller dans les petites villes. Les petites villes, tout simplement parce que c'est celles qui sont restées encore très authentiques, qui ont beaucoup été moins mondialisées et qui ont en même temps sont quand même des endroits où ça brasse, il se passe beaucoup de choses. Il y a des gens qui parlent, qui discutent, il y a du commerce. Pour moi, c'est les petites villes qu'il faut privilégier quand on part en voyage si on veut vraiment sentir un pays.
Petite ville et aussi petit pays, hein. C'est oser des pays qui sortent un peu des codes et de la culture touristique. Antoine de Maximy, la Bosnie, le Malawi, les Kiribati, pour reprendre quelques-unes de vos dernières émissions, c'est donner leur chance aux pays qui, sur le papier, ben voilà, sont pas forcément les plus sexy pour les vacances d'été.
Et qui sont souvent très intéressants parce que justement, comme il n'y a pas beaucoup de touristes, le rapport est beaucoup plus authentique aussi. C'est-à-dire qu'on arrive, les gens sont contents de te voir arriver parce qu'il y a une personne qui est venue la veille.
Pierre Josse, vous, le conseil que vous donnez, ai-je lu, c'est l'essentiel, c'est de se tirer. Voilà, c'est votre expression.
Oui,
on met les voiles et puis on voit ce qui se passe après.
Je reprends souvent une formule d'Einstein que j'aime beaucoup, à part M égale M, c'est deux là. Il avait dit un jour, la logique consiste d'aller de A à B tout droit, l'imagination vous mène partout. Et effectivement, là, je rejoins Antoine, qui est un vieil ami aussi. On est en famille ce soir.
Le club des routards.
Il parlait des petites villes. Et effectivement, j'étais à Goulin, l'année dernière, qui est une ville très touristique, vous savez, avec les fameux pains de sucre, etc., etc. Et il y a énormément de monde. Il y a un tourisme chinois qui est énorme. Bon, c'est des foules, mais de dizaines de milliers de personnes, hein, faut imaginer. Et donc, pour s'échapper, on loue un vélo, on fait 10 km en dehors de Goulin et on se retrouve dans des villages totalement hors du temps. C'est tout juste si les chariots n'ont pas des roues carrées, voyez. Et là, c'est le dépaysement complet, c'est la rencontre avec des paysans qui n'ont jamais vu un touriste depuis très très longtemps. Et c'est évidemment là se satisfaire de l'inconnu, de la rencontre, de la richesse, des discussions laborieuses, mais on parle souvent avec les yeux et le cœur.
Guy Raffour, est-ce que vous les sentez prêts pour l'improvisation et ce qu'on va appeler l'expérience totale, les Français ?
Non, majoritairement non. Là, on a 2 cas particuliers. Non, majoritairement, encore une fois, ils veulent vraiment préparer, ils veulent assez peu de surprises, en tout cas en termes organisationnels. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en souhaitent pas une fois qu'ils sont sur place. Puisque quand on leur demande, en ouvert, hein, on interroge 1000 Français pendant 1 heure, quand on leur dit, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi finalement vos vacances, parce que la plupart des Français les réussissent, et le deuxième critère qui nous a beaucoup surpris, qui revient chaque année, et fort heureusement, il nous a surpris dans ce sens-là, c'est l'enrichissement personnel. C'est-à-dire que c'est au gré des rencontres, des marchés du terroir, des écomusées, des gens qui racontent quelque chose quand ils ont logé chez eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu monter de plus en plus. Une attente très forte, et les deux autres invités le disent, une attente très forte de contact humain. Ça, c'est quelque chose qui est... On a été très contents de le voir parce que on est passé finalement encore une fois, d'une organisation toujours, mais moins sur les aspects purement techniques, pour aller davantage vers une organisation qui permette aussi des rencontres, des échanges, et revenir finalement avec des sourires dans la tête et des gens qu'on n'aurait pas côtoyés autrement. Donc cette notion de découverte humaine est très importante, d'où l'expérientiel. Et d'ailleurs, vous voyez d'ailleurs de plus en plus même des très gros opérateurs qui maintenant mettent au point tous les aspects expérientiels, donc avec tout ce que l'on peut souhaiter faire. Ça va du yoga, ça peut être des stages de découverte, de la formation à la cuisine locale, etc. Parce que les gens ont besoin de plus en plus d'avoir des vacances enrichissantes où ils reviennent avec des choses qu'ils n'auraient pas faites tous les jours. Donc toujours avec cette notion de décalage.
France Inter, Arnaud Bousquet. Le téléphone sonne.
Et avec le témoignage de Frédéric depuis le Puy de Dôme, l'Auvergne. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir France Inter. Donc vous attendez mon témoignage. Alors comme j'expliquais à votre collègue, et ça fait suite un peu à ce que j'ai entendu depuis le début de l'émission, que vous avez démarré en parlant d'aller à la rencontre de l'autre. Donc c'est effectivement ce que j'ai recherché pendant une dizaine d'années, ce que je vais me remettre à rechercher puisque je vais repartir en voyage bientôt. Pour moi le voyage c'est trois choses. Ce sont d'une part les populations, ensuite ce sont les paysages, la géologie, et puis le troisième point c'est le pays, son histoire, sa culture. Personnellement, je privilégie la rencontre de l'autre parce que ce sont ces rencontres qui provoquent certainement les plus belles émotions. Et que ce soit au Mali, en Inde, au Rwanda ou en Turquie, au Kurdistan notamment, j'ai fait des rencontres tout à fait exceptionnelles en utilisant un système d'hébergement chez l'habitant qui s'appelle Couchsurfing, que je conseille largement, qui permet de réserver à minima avant de partir. C'est intéressant d'avoir ce système et de se dire, bon, je vais peut-être atterrir à 2h du matin à Bamako. Bah, si quelqu'un peut venir me chercher à l'aéroport, ça c'est peut-être plus sympa que de prendre un taxi et de se retrouver à l'hôtel. Et puis, quand vous êtes hébergé chez l'habitant, comme ça, vous avez... Moi, je distingue trois statuts. Le premier, vous pouvez être simplement un hôte. Ensuite, vous pouvez être un pote, un ami. Et puis, la situation la plus intéressante, c'est quand vous devenez un membre de la famille à part entière. Et ça, j'ai vécu ça dans une famille sikh à Delhi. Et c'était tout à fait exceptionnel parce que vous découvrez la culture, vous découvrez le pays, vous découvrez leur histoire, leurs galères. On vous explique où il faut aller, où il faut pas aller. Vous sortez complètement des constructions, des canaux touristiques classiques. Alors en ce qui me concerne, et puis pour reprendre un peu ce que disait la première auditrice, alors j'achète un guide de voyage, toujours, mais je l'ouvre une fois que je suis dans l'avion. Parfois avec des bonnes surprises, parfois avec d'assez mauvaises surprises, voilà. Mais j'ai ce guide, j'atterris, je sais que quelqu'un va m'attendre, je vais chez cette personne, et après... c'est un peu le bouquin, c'est un peu les échanges, et puis je me laisse porter. Voilà.
Merci Frédéric de ce mode d'emploi de vos vacances, et effectivement ça nous donne quelques bases pour pourquoi pas démarrer dans ce style de vacances. Pierre Josse, n'ouvrir le guide qu'une fois dans l'avion et préparer à minima l'hébergement avec du couchsurfing, ça vous semble être une bonne idée pour commencer?
Alors écoutez, il y a 1000 voyageurs et il y a 1000 façons de voyager. Bon, il y a des gens qui ouvrent le routard avant, il y en a qui l'ouvrent dans l'avion.
Ou d'autres guides, hein.
Pardon ?
Ou d'autres guides, nous en voulez pas.
Bien entendu. Il y en a qui l'ouvrent en arrivant, il y en a qui l'ouvrent après avoir visité un site ou avoir testé des restos de façon individuelle, spontanée, sans avoir eu recours à la liste qui est proposée. Il y en a qui le lisent au retour. Voyez, pour se remémorer les beaux souvenirs. Moi, alors là, je donne aucune recette. Et on a lu un guide. Il ferme sa gueule quand on le referme aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il réponde à un moment donné à un besoin. J'ai horreur de ces lecteurs qui suivent mot à mot 24 heures sur 24, ligne par ligne, effectivement, parce que là ils perdent une autonomie complète, une faculté de jugement personnel. Non, ça c'est pas bon, c'est une sorte d'esclavage, vous voyez ce que je dis.
Alors notre auditeur évoquait le Mali. Pierre Josse, vous expliquait que vous préférez poser votre sac à dos chez un joueur de balafon au Mali plutôt qu'à l'hôtel. Qu'est-ce que ça vous apporte au fond quand vous passez une nuit chez un joueur de balafon au Mali ou Antoine de Maximy chez une vendeuse de légumes au Bhoutan, par exemple? Qu'est-ce que ça vous apporte, Antoine de Maximy?
C'est l'immersion. C'est vraiment d'être en immersion. J'ai juste un petit truc à dire sur les guides, c'est que j'en ai pris au début et très rapidement j'en ai plus pris pour une raison un peu simple. La Pierre va me casser la figure.
Pas du tout.
En fait, c'est que il a raison de dire qu'il faut prendre un peu de distance avec le guide, parce que si tu suis exactement ce qui est dit dans le guide, ça donne, par exemple, on conseille d'arriver plutôt vers 7 heures parce qu'il y a moins de place ou quelque chose, et ben, t'as tous les Français qui ont le même guide qui sont là à 7 heures. Donc, je trouve qu'il faut tracer sa route. Et encore une fois, je suis d'accord avec lui quand il parle des 10 kilomètres à côté de l'endroit touristique. C'est tracer sa route. Et en fait, être loin, c'est pas tellement la distance kilométrique, c'est le temps que tu as mis à y arriver et qui te permet de te trouver en dehors des faisceaux, de là où tout le monde va. Maintenant, pour répondre à la question, eh ben, il suffit de me la reposer parce que j'ai oublié.
Qu'est-ce que ça vous apporte, Antoine de Maximy, d'aller passer la nuit chez une vendeuse de légumes au Bhoutan, dont vous savez rien et que vous ne connaîtrez plus le lendemain, plutôt que d'aller à l'hôtel?
Ben, c'est ça, c'est ce que je disais. Donc, c'est effectivement l'immersion et surtout le partage, parce que il y a chez cette vendeuse de légumes, puisque c'est l'exemple, il y a toute la rencontre qui est arrivée avant, ce qui fait que cette vendeuse de légumes, c'est pas n'importe quelle vendeuse de légumes, c'est quelqu'un, c'est une amie, elle va me faire entrer dans sa famille, je vais rencontrer ses amis, je vais ressentir sa vie. C'est pas simplement que je vais apprendre sa vie, parce qu'en fait on s'en fiche. Je vais ressentir et je vais vivre une petite partie de sa vie.
Mais Antoine de Maximy, justement, parce que dans vos documentaires, il y a la rencontre, il y a les premiers sourires, les travaux d'approche pour passer la nuit chez les gens. Ce qu'on voit moins, ce sont les au revoir, les adieux. Je me dis qu'on doit quand même y laisser des plumes, parce que vous partagez quelque chose de très fort, de très intime avec ceux qui vous accueillent, et puis hop, c'est fini. Vous savez que vous les reverrez a priori jamais de votre vie. Comment vous gérez, comment vous supportez, le terme est à la mode, mais cette ascenseur émotionnel.
En réalité, je mets relativement peu ces au revoir, mais j'y suis un petit peu revenu, parce que souvent le lendemain il y a quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus posé. J'en revois quelques-uns, mais effectivement très peu, parce que je laisse mes coordonnées, j'ai les leurs, etc. Mais en fait, il se passe quelque chose, c'est que c'est un petit peu comme les amours de vacances, à savoir que il y a une espèce de magie qui s'est créée parce qu'on était ensemble, et après, quand on s'éloigne, eh bien, on s'oublie. Et à la limite, moi, je les oublie beaucoup moins qu'eux, parce que moi, j'ai fait que traverser leur vie. Alors qu'eux sont restés dans la mienne, dans la mesure où derrière, j'ai quand même quelques semaines de montage. Ensuite, je revois souvent l'épisode. Et du coup, je suis beaucoup plus proche d'eux qu'ils le sont de moi. Et certains que j'ai pu rappeler pour des raisons, quelles que soient, simplement pour avoir l'adresse, pour leur envoyer le DVD ou des choses comme ça quand je l'avais pas, je m'aperçois que je suis un petit peu sorti de leur vie et que j'ai eu moins d'importance dans leur vie que l'inverse.
Pierre Joss, votre joueur de balafon au Mali, vous restez en contact ou il sort de votre vie ?
Alors, malheureusement, Konaté est décédé il y a quelques années. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la qualité principale d'un voyageur, pour moi, c'est la curiosité. C'est-à-dire, pas seulement rentrer enrichi d'une culture, etc., mais de savoir qui est l'autre et accepter de se foutre à poil à la frontière, d'abandonner ses clichés, d'abandonner ses idées toutes faites, d'abandonner ses a priori et accepter, et c'est parfois difficile, mais c'est une technique, accepter d'être déstabilisé et de revenir en arrière sur des idées toutes faites ou des clichés. Et ça, cet état de déstabilisation, c'est presque une jouissance. C'est-à-dire qu'en fait, on progresse par rapport à des religions, par rapport à des coutumes, par rapport à des traditions. Mais par exemple, le vaudou, toutes les cérémonies afro-brésiliennes, par exemple, les combats de coqs. Je suis revenu en arrière sur pas mal de clichés, d'idées toutes faites, parce que c'est le rapport social et culturel que les gens entretiennent avec cette activité et cette coutume qui est intéressante.
Guy Raffour, est-ce que les Français, comme dit Pierre Joss, acceptent de plus en plus de se foutre à poil au moment de partir en vacances ?
Pas vraiment, non.
Il y a de la prudence.
C'était au figuré.
Bien sûr, je me doute, surtout Pierre. Je te vois pas faire ça. Non, ce qu'il faut voir, si vous voulez, au-delà des expériences individuelles des deux invités qui sont effectivement passionnantes, il faut savoir que globalement, ceux qui partent le plus, c'est des 35-49 ans avec des familles. Et quand on les interroge, évidemment, ils nous disent bien, nous on a une notion de responsabilité, on a des enfants, moi-même je l'ai vu, je faisais ce que faisaient les deux invités avant d'avoir eu 5 enfants, puisqu'après on a une autre démarche quand on part, on a envie toujours de cette curiosité, entre guillemets, aussi de s'ouvrir complètement, mais en même temps d'avoir un minimum d'organisation, de responsabilité, ne serait-ce qu'au niveau sécurité, santé ou autre. Et justement, ce que disent les Français, mais ça rejoint finalement tout ce qui est décrit, cette notion de partage. Et à la fois, les Français la recherchent avec d'autres personnes, justement, qui peuvent rencontrer au fil de leurs vacances, à tout point de vue. Ils sont vraiment très, très demandeurs de ça. Et je passe mon temps à le dire quand je vais dans les régions françaises, leur dire, mais ayez de l'empathie. Il faut que ceux qui reçoivent aussi aient envie de recevoir les gens, qu'ils aient envie de leur montrer quelque chose, de leur raconter leur histoire. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, par exemple, les Gîtes de France ont beaucoup de succès, parce que les gens qui hébergent sont là depuis des générations. Et ceux qui sont bienvenus à la ferme aussi, c'est leur ferme, ils partagent. Donc cette notion de partage est très importante à la fois avec les gens qui vous reçoivent et aussi avec les gens avec qui vous partez. Beaucoup nous disent, dans ce besoin vital qu'on évoquait au départ, on est avec sa tribu, avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches, et on se redécouvre aussi entre nous parce qu'on est dans un autre contexte, dans un autre univers, avec d'autres paysages. Et troisième point, quelque chose qui a énormément changé depuis 16 ans, c'est le e-tourisme. Le e-tourisme, maintenant, vous avez 80% des Français qui préparent en ligne leur séjour. Et ça, c'est une nouvelle aussi manière d'appréhender le séjour, puisqu'ils vont, 80% d'entre eux, vont en plus lire les avis. Et c'est des avis, ils vont échanger, ils vont se mettre sur des forums, ils vont lire aussi, effectivement, des guides, ils vont voir des vidéos, comme les auditeurs qu'on entendait, et ils vont apprendre beaucoup.
Et avec des plateformes d'échange très, très, très intéressantes, le témoignage de Sabine, dans le département de la Mayenne. Bonsoir, Sabine.
Oui, bonsoir. Oui, voilà, donc je m'appelle Sabine, donc j'ai la 50aine, j'ai pas mal voyagé dans ma vie, donc avec mon compagnon, donc on a voyagé ensemble à deux au sac à dos, j'ai voyagé pour mon travail quand j'étais jeune, et là j'ai voulu voyager autrement, et je me suis inscrite sur le site Workaway, donc c'est un site donc, qui propose des annonces à travers le monde. Et là, en fait, je suis partie au mois d'avril, pendant un mois, en Bulgarie, m'occuper des chiens des rues. Voilà. J'ai une forte passion pour les animaux. Donc, c'était un moyen pour moi d'aller en Bulgarie, d'améliorer mon anglais, parce qu'en Bulgarie, c'est une Anglaise qui a ouvert un refuge pour les chiens des rues. Donc, voilà, c'était une expérience absolument fantastique, je dirais, plus au niveau des quadrupèdes que des bipèdes. Et bien, ça, c'est autre chose. Donc j'ai vécu en fait au sein du refuge pendant un mois, et donc sur ce site Workaway, en fait en échange du gîte et du couvert, donc on travaille bénévolement en échange du gîte et du couvert, hein, voilà, en fait c'est le principe, et donc là c'était formidable.
C'est donner vraiment un sens à son voyage.
C'est vraiment, c'était une expérience, c'était me tester moi, d'ailleurs, c'est un vrai test de rencontrer en plus que des anglophones, donc c'est la langue, l'approche de la langue. Ensuite, c'était vraiment en milieu, qu'avec des chiens autour de soi, 70 chiens autour de soi, et j'ai vécu vraiment dans la maison où je vivais. J'avais un chiot avec moi, j'avais 5 chiens dans le hall, 4 chiots à côté de moi, donc c'était vraiment, je voulais me tester aussi à ce niveau-là. À voir comment... Et c'était formidable, vraiment formidable.
Merci Sabine, voilà. Merci de votre témoignage. Tout petit mot là-dessus, Guy Raffour, sur le sens que les Français veulent désormais donner à leurs vacances. On ne veut pas seulement bronzer intelligent. On veut bronzer intelligent.
En tout cas, oui, on ne veut pas se mettre trop au soleil. Non, c'est vraiment cette notion de sens, cette quête de sens, cette quête, encore une fois, d'un enrichissement personnel, de rencontres, d'images. Et d'ailleurs, très clairement, on le voit sur les derniers chiffres là, du 9 juillet qu'on a publié. Vous avez beaucoup plus de gens alors qui font des efforts pour partir. Hein, je dis 70% prévoient un budget. Eh bien, la majorité des Français prennent des séjours, ce qu'on appelle marchands, c'est-à-dire qu'un hébergement payant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, même si c'est en France, mais en tout cas ils veulent changer, ils ne sont plus fidèles à l'endroit où ils allaient pour cette notion de changement et d'intensité du séjour. Ils préfèrent des séjours plus courts, mais qui soient complètement nouveaux. Et ils savent que quand ils vont changer d'hébergement, ils auront tout à choisir, le transport, le lieu, les activités. Et c'est vraiment une quête très forte de casser la routine, d'être surpris. On l'a entendu d'ailleurs dans les reportages, sans forcément aller très loin, on sait que quand on casse le quotidien, eh bien, on aura un gain quand on va revenir, et on va partager beaucoup plus, parce qu'on aura que des images nouvelles à tout point de vue, des personnes, des paysages, du lieu même où on a été hébergé. Et d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure les hébergements. On a vu monter, là, en 16 ans, quelque chose d'incroyable. C'est que maintenant, en deuxième position, derrière les hôtels, on a les hébergements, dans la location entre particuliers. Et ça, effectivement, c'est un phénomène majeur, parce que les gens, à la fois, bien sûr, c'est de découvrir même des logements dans lesquels les gens vivent et dans leur univers propre des gens qui vous accueillent. Donc ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, toujours cette quête de sens.
Pierre Joss.
Oui, je voudrais revenir sur l'idée précédente, sur donner un sens à son voyage. C'est-à-dire que maintenant, je vois mon fils, par exemple, il a déjà fait deux expériences de ce type-là, c'est de partir, par exemple, à travers une ONG, pour creuser des puits au Burkina, des petits barrages sur les rivières, être bénévole dans un travail social, culturel, et donner un sens vraiment. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que il faut éviter quand même ces organismes maintenant de plus en plus commerciaux qui proposent des voyages pour aller aider les gens du Sud, les gens du tiers-monde, comme on disait dans l'ancien monde, et qui en fait payent une fortune pour être souvent exploité, mal reçu, bien. Donc, renseignez-vous auprès de votre commune, car très souvent, ils sont jumelés avec une ville du Sud, et à ce moment-là, il y a des relations extrêmement
directes. Et pour le coup, pas commerciales du tout.
Donc, effectivement, vous n'êtes pas payé, mais vous avez le gîte et le couvert, mais vous êtes soutenu par votre commune, vous faites un vrai travail social et culturel pour votre commune, et là, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait.
Direction Brest nous attend Olivier. Bonsoir Olivier, soyez le bienvenu.
Oui, allô, bonsoir. Écoutez, moi je suis vraiment à rebours de tout ce que j'ai entendu, je crois, ce soir. Mais vraiment, vraiment, ça me chagrine un peu, parce que je pense qu'on a perdu la notion de voyage. C'est que tous vos intervenants et témoins ont parlé de destination, de sens à donner, mais le sens à donner, c'est déjà de ne pas consommer trop de CO2 en prenant l'avion, de ne pas acheter de guides touristiques préfabriqués. Quand on se perd, ce qui est l'essentiel dans un voyage, on a une langue, on parle, si on parle anglais, c'est un petit peu mieux, effectivement, hein, on ne parle pas tous russe ou néerlandais. Et moi, je pense que le voyage sans destination, c'est perdu de vue. On est tous comme ça de nos jours à entendre à la machine à café « Ouais, mais moi j'ai fait le Nicaragua, c'était génial ». Mais au secours, au secours. Alors moi, je pense que donner un sens, si c'est pour aller justement donner des cahiers en Afrique, c'est un peu néocolonialiste. Ça a donné des guerres tribales dans certains. Je vous rappellerai pas le 4L Trophy 92, si je ne m'abuse.
Donc vous vous y prenez pour voyager?
Alors moi j'ai fait énormément de stops, mais vraiment, comme je disais aux techniciens, j'ai dû faire à minima 15 000 km de stop au cours de ma vie. J'ai été en Tchécoslovaquie, j'ai été où j'ai dormi dans des chantiers où on se faisait virer le matin parce qu'il y avait des ouvriers qui arrivaient, ils se demandaient, et on leur demandait gentiment, oh, désolé, on voulait pas vous déranger, vous savez à combien de kilomètres le prochain village? Et ils nous répondaient. J'ai rejoint une ancienne amie de jumelage de ma ville avec une ville allemande dans le sud de la France. J'ai été à multiples reprises en Angleterre parce que j'y ai travaillé un an et demi, mais la première fois j'y étais en stop, je savais pas où j'étais. J'ai été viré par les flics de l'autoroute parce que c'est interdit en Grande-Bretagne le stop, enfin à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant. Et je pense que j'ai fait aussi la Loire à vélo. Nous sommes partis de Brest avec les vélos dans le train et nous avons fait la Loire à vélo. Et le regard des gens qui voient, à l'époque nous étions à peu près jeunes, de voir des gens, deux jeunes qui arrivent comme ça et qui demandent leur chemin, qui demandent comment est l'activité dans la ville en hiver, comment avoir une langue, rencontrer les gens. On n'a pas besoin de rencontrer des papous en leur disant, en ayant pris l'avion à 1 500 $, pour rencontrer l'humanité. Pour moi, rencontrer l'humanité, ça pourrait même se passer, je ne sais pas, à Quimper.
Vous qui habitez Brest, trentaine de kilomètres.
Attendez.
Oui, du coup, moi, rapidement, pour conclure, Olivier.
Voilà, je pense que véritablement, donner du sens à quelque chose, que ça, quoi qu'on fasse, hein, parce qu'il y a des gens qui ont la possibilité, effectivement, dans leur vie, d'avoir un sens à leur travail, mais donner du sens à ces vacances, est-ce que c'est véritablement pas juste pour, encore une fois, dans un terme moderne, de pour dire j'ai fait ça
à la machine à café au retour avec les collègues.
Voilà.
Merci Olivier.
Le voyage, c'est important.
Merci Olivier. Je pense qu'Antoine de Maximy et Pierre Josse seront d'accord avec vous. Antoine de Maximy, vous avez réalisé une série de reportages en 2009 sur le parcours du Tour de France cycliste. Donc chaque jour, chaque étape en Bretagne, chez Olivier, dans les Alpes, les Pyrénées, la région parisienne, sont des rencontres aussi nourrissantes que les vendeurs de rue aux Philippines.
Ah ben ça je suis d'accord. Bon, moi je suis pas tellement d'accord sur le fait un peu expéditif que c'est comme ça que c'est mieux, etc. Chacun fait son voyage comme il a envie. En revanche, je pense que la France c'est une mine d'or. Quand je parlais souvent avec des gens d'un pays ou d'un autre, ils disaient toujours c'est beau, mais la France est un hyper beau pays. Plus t'as voyagé, plus t'aperçois que c'est un pays exceptionnel. Moi, ce que j'aime souvent dire, je vais peut-être aller un petit peu dans la direction de ce qui vient d'être dit, c'est qu'en France, il y a un truc qui est vachement sympa à faire, c'est de prendre une petite mobylette, un truc qui va pas vite du tout, voire un vélo. Moi, j'aime pas trop le vélo, mais bon. Et puis, de partir se promener en France, parce que quand tu as un véhicule aussi peu adapté aux grandes routes, tu prends que des petites routes. Et là, c'est formidable parce que tu découvres un pays dans lequel tu vis depuis toujours et que tu ne connais absolument pas.
Alexandre nous appelle du 14e arrondissement de Paris. Vous vouliez poser une question qui vient de trouver pratiquement sa réponse. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Comment faire quand on ne peut pas aller très loin?
Alexandre de Paris 14, donc, je crois que, avant de faire ma remarque et de donner mon style de vacances, que faut pas oublier qu'il y a quand même 60 ou 70%, enfin je sais pas les chiffres exacts, de personnes qui, en France, n'ont pas les moyens de partir en vacances. Les vacances, ça ne concerne qu'une très faible minorité. Et en ce qui me concerne, je suis né donc dans le 14e arrondissement, j'ai 52 ans. À l'idée de faire une valise, ça me prend la tête. Quand je pars en vacances, j'aime avoir mon monde à moi, mon CTTP, mes médecins, mes voisins, mes amis, ma radio favorite, Radio France et compagnie France Inter. J'aime bien. Enfin, le lieu m'importe peu quand je pars en vacances. Ce qui compte pour moi, c'est d'être avec mes parents. Et donc, mes parents m'ont offert et m'offrent cette année 3 fois une semaine de vacances chez eux, à 10 minutes de chez moi. Moi, je suis au Père Netti, où ils sont à Plaisance. Et je vais me faire dorloter chez mes parents, en fait.
Ben, c'est une belle façon aussi de réussir ses vacances. Merci Alexandre. On a le spécialiste du 14e arrondissement en studio, puisque Pierre Josse, vous avez découvert une passion pour cet arrondissement de Paris. Absolument. Il y a quelques décennies. Et c'est ce qu'on disait au début de l'émission, vous continuez à le découvrir.
Je continue à le découvrir. J'ai bourlingué dans le 10e arrondissement, dans le 18e, dans le 13e, y compris dans le 6e. Et le 14e arrondissement, là, c'est vraiment l'arrondissement définitif. C'est là que je serai enterré d'ailleurs, j'ai acheté ma concession à Montparnasse. Et j'ai découvert récemment le quartier Père Netti, qui reste une des dernières bulles vraiment populaires du 14e arrondissement, des gens bruts de forme, des bistrots. Parce que là, je suis un amoureux fou des bistrots.
Donc l'Irlande, donc les pubs.
Donc les pubs, dont les chibines au Cap, etc., etc. Et là, j'ai découvert une petite rue provinciale, absolument adorable, avec des gros pavés comme on faisait au 19e siècle, totalement arborée. C'est-à-dire que chaque habitant depuis 20 ans a planté des arbres, de lierre et de la vigne vierge sur ses façades. C'est la petite rue des Thermopyles. Je conseille aux gens qui viennent à Paris, qui sont parisiens et qui ne connaissent pas encore leur arrondissement, d'aller s'y promener et ils vont être absolument dépaysés totalement.
Guy Raffour, que fait-on pour les 60-70%, nous disait Alexandre, de la population qui ne peuvent pas partir en vacances?
En fait, le chiffre exact, c'est 41% qui ne prennent pas de vacances dans l'année, 41%, ce qui est énorme. Et ce qui est fait, c'est évidemment, moi j'ai pas mal travaillé sur ce point-là. Alors, il faut savoir que sur les 41% qui ne partent pas, 50% de ceux-là, c'est pour des questions de revenus. Donc, pour les questions de revenus, ce sont, par exemple, le travail que fait l'ANCV, l'Agence nationale des chèques vacances, ce que font les caisses d'allocation familiale, le secours populaire, donc tous les organismes sociaux qui peuvent aider ces 50% pour des raisons financières. Les autres 50%, c'est beaucoup plus difficile. C'est des gens qui sont pas habitués à partir. C'est des gens qui ont peur même de partir. C'est des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont un enfant en bas âge ou une personne âgée à s'occuper. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. C'est de l'accompagnement humain forcé. Mais donc, effectivement, 41%, il ne faut pas les oublier, qu'ils ne peuvent pas partir. Et je crois que par rapport à ce qu'on a entendu pendant l'émission, il y a une notion très importante dans les rencontres où par exemple, était évoqué également l'aspect environnemental ou le tourisme solidaire, c'est la notion de respect. Et ça, c'est quelque chose, par contre, qu'on n'a pas vu énormément, nous, quand on interroge les Français, c'est que trop souvent, le tourisme est encore considéré comme une consommation, alors qu'il faut aussi le considérer comme le respect des autres. Et aussi, évidemment, de l'environnement, qui devient une préoccupation de plus en plus importante. Donc, cette notion de respect, je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous collectivement essayer de partager aussi, et puis que tous les professionnels du tourisme le donnent dans les mains, comme quelque chose de très précieux, toujours respecter les pays dans lesquels on va, et aussi, évidemment, en France, puisque 80% des Français partent en France.
Et ça sera la plus belle des conclusions, merci. Merci à tous. Écoutez, merci de ces trois quarts d'heure d'évasion, pas forcément très loin, mais très riche humainement. On vous souhaite un bel été. Antoine de Maximy, voyage suivant, après Biarritz. Vous allez dormir où ?
Je sais pas, je vais continuer à me promener en France, mais moi je fais un petit peu, je prévois pas, je sais pas quand je pars et je sais pas où je vais.
Et on a hâte en tout cas de découvrir vos prochains J'irai dormir chez vous sur France 5, et en attendant on peut bien sûr se repasser les anciens numéros, on les trouve assez facilement sur internet. Pierre Josse, là, vous allez retrouver votre 14e arrondissement de Paris, et ensuite ?
Ensuite je vais, comme disait Karl Marx, je vais reconstituer ma force de travail à Belle-Île. Je suis breton d'origine, donc je vais à Belle-Île régulièrement avec ma petite famille. On loue un gîte rural, on a toujours refusé d'acheter une maison. Ça permet de changer de village. Et voilà, on en est à notre 12e village en 30 ans.
Et on vous retrouve mardi sur France Inter, 16h-18h, dans le temps d'un bivouac. Et on salue Guy Raffour, expert en tourisme et fondateur du cabinet d'études Raffour Interactif. Vous étiez en direct de Nice, en duplex, grâce aux équipes de France Bleu Azur. On remercie ce soir Clément Nouguier qui réalisait l'émission, Victoria Asper et Bruno Poncelet à la technique. Et pour préparer ce téléphone sonne, il y avait Justine Bilré, Caroline Baudry et Pierre Gaufre. Demain, on s'interrogera sur les démantèlements des camps de Rome. Que deviennent ensuite ces populations? Je vous donne rendez-vous, s'il vous plaît, à 19h.